Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir, Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h40, effectivement on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec la bande Cyprien Cini, Laurent Tessier, Anaïs Bouissou, l'info avec un autre regard pour apprendre tout plein de choses jusqu'à 19h. Le menu Cyprien.
Ce soir, on défait le monde, traque le nouveau variant. Comment fonctionne le séquençage en France? Qui détecte les variants? On vous emmène dans les coulisses des labos. Au programme également, Uber, mal aimé, mais toujours là. Pourquoi Omicron s'appelle Omicron? Et vous apprendrez d'où vient le concept du doigt d'honneur. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti!
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
Au variant
Delta. Au variant Delta.
Ce variant Delta Plus.
Le variant Indien.
Le variant Epsilon.
Un nouveau variant dit Breton.
Le variant Lambda.
Un nouveau variant Marseille.
Et donc désormais le variant Omicron. La valse des variants continue. Des variants débusqués grâce au séquençage. Alors, le séquençage, pour faire simple, c'est lire le virus. Ça permet de connaître l'ensemble de son matériel génétique et donc de le comprendre. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu en savoir plus sur ce séquençage devenu essentiel dans la lutte contre le Covid.
Concrètement, comment ça s'organise ce séquençage? Est-il automatique pour chaque cas positif? La France est-elle armée pour séquencer en masse?
Pour tout savoir, on a contacté Lionel Baran, c'est le président du syndicat des biologistes médicaux. Et vous allez l'entendre, le séquençage, c'est pas automatique en fait.
Ça se fait que sur certains prélèvements. Toutes les semaines, on a ce qu'on appelle des enquêtes flash. Le ministère nous donne des instructions pour dire quels sont les tests à séquencer et quels sont les tests à ne pas séquencer. C'est sur la base de certains jours. C'est par exemple tous les cas positifs du lundi, mardi, mercredi seront séquencés et pas ceux du jeudi, vendredi par exemple. On ne peut pas séquencer tous les cas positifs. On va les pêcher à la ligne de manière aléatoire. En revanche, on a aussi le séquençage dit ciblé. C'est-à-dire que là, on va pas cibler un jour particulier, mais on va cibler des profils particuliers. Par exemple, une personne qui revient de tel ou tel pays, eh bien, s'il est positif, là aussi, il faut séquencer et donc l'envoyer à une plateforme permettant de faire le séquençage.
Et concrètement, ça se passe comment? Qui fait quoi?
Alors, je vais vous expliquer. Vous allez faire un test PCR. Ouais. On vous met le coton-tige dans le nez.
Wow.
Pas de bol, vous êtes positif et vous tombez le jour de la fameuse enquête flash. Ouais. Et bien là...
Quand on a le résultat, on va l'envoyer au séquençage dans un laboratoire spécialisé. Et c'est le laboratoire spécialisé qui va prendre le même échantillon que celui que nous, on a analysé dans notre laboratoire et qui va faire le séquençage dessus. C'est des grosses machines dans lesquelles on va mettre l'échantillon et qui va travailler pour essayer de détecter chaque gène du virus et d'avoir finalement la carte génétique de l'ensemble du virus. Il faut pour séquencer entre 5 jours et 15 jours pour avoir les retours des enquêtes flash. On peut séquencer en quelques jours, on n'a pas besoin d'attendre 15 jours. Là, c'est juste que certaines plateformes sont débordées. On est en dessous de 10 laboratoires qui font le séquençage en France.
Moins de 10 labos? Mais ça va suffire là dans les semaines qui viennent?
Non, en fait, ça suffit pas. À titre d'exemple, en France, on séquence 1% des tests positifs, ouais. Là où le Danemark en séquence près de 20%. Mais on va peut-être s'améliorer, et rapidement en plus, parce que visiblement, on a les moyens de faire mieux.
On a plus de laboratoires en France qui existent et qui ont les capacités de faire du séquençage, qui ont la machine et qui ont les compétences, parce qu'il faut beaucoup de compétences pour ce type d'échantillon, et qui ont les compétences pour séquencer. Donc ce serait effectivement très intéressant d'augmenter le nombre de ces laboratoires, parce qu'en pratique, ils existent ces laboratoires, c'est juste que pour l'instant, ils n'ont pas été acceptés dans le cahier des charges national.
Et une réunion est justement actuellement en cours, à l'heure où je vous parle, là, entre les biologistes et le gouvernement, pour essayer d'ouvrir la possibilité de faire du séquençage à plus de labos.
Et donc, résultat de la réunion demain, 6h15, 6h15 dans les petits matins sur RTL, puisque l'invité de Jérôme Florin sera François Blanchecotte, c'est le président du syndicat des biologistes.
RTL, sous les radars.
Allez, sous les radars, tous les soirs dans On défait le monde, une info qui est passé inaperçu.
Et alors, amis amateurs et amatrices de vin, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. Vous allez tendre l'oreille là, parce qu'en fait, on fait désormais du vin au Sénégal, Laurent.
Oui, les premières bouteilles de ce vin made in Sénégal sont commercialisées depuis la semaine dernière. Seul le Cap-Vert en produisait jusqu'alors en Afrique de l'Ouest. Son nom, le Clos des Baobabs.
C'est joli.
3 hectares de vignes se trouvent
14 hectares, non ?
3 hectares de vignes se trouvent à environ 70 km au sud de Dakar. À la manœuvre, deux associés français, François Normand et Philippe Franchois. Et après 8 années d'expérimentation, les propriétaires ont donc obtenu son autorisation de mise en vente. On pourra retrouver ce vin chez les cavistes et les restaurants, ce qui n'est pas rien dans un pays à 95% musulman.
Et alors, est-ce qu'on peut espérer le trouver en France, ce vin ?
Alors, actuellement, non. La production est limitée à moins de 1000 bouteilles, un rendement faible, notamment en raison du climat, des fortes températures, sans oublier les attaques de termites ou les singes qui viennent se servir également. Et vous allez me dire, son goût, ah bah à oui. quoi ressemble
bah
ce vin
oui.
Bon, la réponse de l'un des gérants du domaine, Philippe François.
C'est un vin qui n'est pas assemblé de plusieurs cépages. C'est un seul cépage. C'est un grenache noir. Notre grenache se rapprocherait plutôt d'un pinot noir de Bourgogne.
Et pour le prix, il est quand même réservé à une clientèle aisée. La bouteille est vendue un peu plus de 30 euros.
Le grenache, c'est un cépage de soleil, effectivement. Ce serait sympa de déguster, Laurent, vous qui avez de bons contacts maintenant.
Claude et Baobab.
Une petite pause, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. On va vous expliquer pourquoi Omicron et pas Gamma ou Pi. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller dans quelques minutes au dîner.
C'était le grand coup de gueule de Yannick Jadot ce matin sur RTL, vous l'avez peut-être entendu, à propos du variant Omicron.
On parle du variant Omicron, personne ne comprend rien. Il faut arrêter avec ces lettres totalement débiles que personne ne comprend.
Alors Laurent, pour faire plaisir à Yannick Jadot et pour briller tout à l'heure au dîner, pourquoi Omicron s'appelle Omicron? Il vient d'où ce nom?
Tout simplement, c'est le nom de la 15e lettre de l'alphabet grec. Alors, ça devait être la 13e lettre, nue, car c'est le 13e variant surveillé par l'Organisation Mondiale de la Santé, et un choix qui aurait été, selon l'OMS, confondu avec « new ». Nouveau en anglais.
Ah, donc on a écarté,
La 13e lettre.
Okay, 14e.
Et vous allez me dire, la 14e lettre, c'est Xi. Mais là, ça aurait froissé le président chinois Xi Jinping.
Oh là là, ils sont susceptibles. Alors pourquoi donne-t-on des noms grecs à ces variants?
Alors, au mois de juin dernier, l'OMS a recommandé de nommer ces variants avec l'alphabet grec. Une méthode, je cite, plus accessible à un public non scientifique. Des noms faciles à prononcer et non stigmatisants. Éviter, par exemple, de le nommer par le pays où il a été détecté pour la première fois. Exemple, le variant anglais devenu Alpha, le variant adien devenu Delta.
Mais en Angleterre, ils ne disaient pas le variant anglais, ils disaient le variant du Kent.
Ah bon? Ah ouais.
C'est ciblé la région.
La région, effectivement. Et le prochain variant, on l'appellera comment alors?
Alors vous aurez Pi, et ensuite, pour la 16e lettre de l'alphabet, pour la 17e lettre de l'alphabet, le variant Rho.
En Rho.
Je vois que vous avez bossé votre alphabet grec.
Après Sigma.
Très bien, merci Laurent.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Allez, l'heure du verdict, Anaïs désigne maintenant le winner ou le loser du jour.
Un winner qui n'est pas toujours magnifique, mais un grand gagnant quand même, hein, car on peut le détester, le trouver parfois pas toujours très moral, mais sa capacité à s'accrocher malgré les critiques est indéniable. C'est la compagnie Uber qui fête ses 10 ans en France aujourd'hui, Anaïs.
Oui, hommage ce soir à une entreprise américaine qui a révolutionné le monde du travail et qui, dès son arrivée en France, a su faire parler d'elle. Bon, Uber dégage, hein, ça fait pas vraiment accueil de winner. Mais il faut dire aussi que l'entreprise était en concurrence frontale face aux taxis.
Un mec avec 100 euros, il fait la même chose que moi avec une voiture immatriculée en Allemagne, en Belgique, en Roumanie. Qu'est-ce que ça veut dire?
S'il ne se conforme pas à la loi, on fera en sorte qu'il ferme et qu'il parte.
Alors, les taxis, c'était des concurrents. On comprend, mais les politiques, François Hollande, son ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve en 2015, on parle quand même d'une société américaine qui choisit la France pour s'installer. Ça, normalement, ça aurait dû être une bonne nouvelle.
Oui.
Sauf que...
Uber Pop doit être dissous et déclaré illégal.
Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le droit passe face à une entreprise qui, avec arrogance, n'applique aucune des règles dans la République.
Oui, donc vous voyez, devenir winner, c'était pas gagné au départ. Il faut dire qu'avec leur service Uber Pop, ils avaient quand même sacrément abusé. Ils avaient créé une sorte de covoiturage déguisé sans aucune règle de droit du travail.
On voit des banderoles sur lesquelles il y a écrit Uber égale esclavage moderne, Uber égale cauchemar des chauffeurs.
Mais Uber a tenu contre vents et marées et s'est accroché face à l'adversité.
Et 10 ans après, donc malgré toutes ces polémiques, ils sont encore là.
Bah oui, Uber, après 10 ans, malgré les polémiques, bon.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout.
Alors oui, l'entreprise a dû faire des concessions, à commencer par la démission de son fondateur, hein, c'est pas rien comme concession. Travis Kalanick, accusé d'agressivité, sexisme, discrimination, corruption au passage.
Ouais. Voilà,
trois fois rien, mais qu'on le veuille ou non, le tour de force d'Uber, c'est d'avoir plu aux consommateurs, tout simplement, au point d'entrer dans la langue française.
C'est ce qu'on appelle l'ubérisation.
L'ubérisation, c'est une activité où les emplois salariés sont remplacés par des indépendants
qui sont payés à la tâche.
Uber reste un phénomène. Ils étaient 14 000 clients en 2011. Et bien, 10 ans plus tard, Uber France enregistre 5 millions d'abonnés. Et ce n'est pas tout, malgré des conditions de travail pas vraiment optimales. Uber a fidélisé ses chauffeurs. 50% des conducteurs Uber y travaillent depuis plus de 3 ans. Et tant qu'à faire, quand on bosse pour une plateforme qui surfe sur les failles de la législation, pourquoi ne pas en profiter soi-même ?
9 chauffeurs VTC sur 10 fraudent les URSSAF et ne déclarent pas toutes leurs courses.
Donc oui, il y aurait 2-3 règles de base à revoir. La bataille juridique, politique et économique se poursuit. N'empêche qu'en 10 ans, le roi de la controverse a enregistré 350 millions de courses, des trains à prendre en urgence, des retours de soirées arrosées, voire des trajets Marseille-Bretagne. 1 600 euros en Uber. C'est une vraie course Uber. Et avec tous ces exploits, notre winner du jour, bah, il est bien capable de tenir 10 ans de plus.
Ah oui, peut-être avec des voitures autonomes et tout ça, on en reparle dans 10 ans, effectivement.
Volante.
Merci Anaïs. Une petite pause dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. Une info majeure, vous allez comprendre. Tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h54, on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Voici une nouvelle info pour briller au dîner qui approche.
Il a fait causer tout le week-end et c'est pas fini. C'est le doigt d'honneur Gate, le majeur brandi par Éric Zemmour, qui répondait du tac au tac à une Marseillaise. De quoi nous plonger aux origines de ce geste si particulier, Anaïs.
Oui, l'origine qui ressort le plus souvent remonte à la guerre de 100 ans au Moyen-Âge. À l'époque, les armées s'affrontent à coups d'arc et de flèches. Et les plus forts à ce petit jeu, ce sont les Anglais. Ils exhibent fièrement, non pas un, mais deux doigts, l'index et le majeur qui servent à bander l'arc et décocher la flèche. Ils soulèvent leurs doigts et ils se moquent des Français. Pour nous venger, nous, quand on capturait un archer anglais, on faisait un truc atroce. On lui coupait au moins le majeur, voire index plus majeur. L'anglais mutilé perdait ainsi son honneur en ne pouvant plus jamais combattre. Le doigt où les doigts d'honneur ont perduré. Les Britanniques utilisent encore aujourd'hui deux doigts en guise d'insulte. Et vous avez même une variante iranienne, notamment, où l'équivalent du doigt d'honneur, c'est le pouce levé. Donc, un petit conseil pour briller au dîner, pour finir. Ne tentez pas le stop.
En Iran.
Ah ouais, non. Alors, quand on va en Iran, on fait super en levant le pouce, comme ça, je suis pas sûr que ça marche.
Non, ça fonctionne pas bien. C'est incroyable, je viens de découvrir pourquoi les Anglais dans les stades de foot s'insultaient avec les deux doigts. Là.
C'est l'arc.
Incroyable, c'est génial.
Bombé,
Laurent, je suis désolé, mais je vais choisir cette info pour Bruno.
Ah, mais je vous en prie, elle était excellente. Je vais rester avec Omicron, Pyro.
Vous êtes très fair-play.
Mais l'alphabet grec, c'était pas mal aussi.
Vous êtes très fair-play, vous êtes très fair-play. Tous très fair-play.
Marche.
Allez, tous les soirs, c'est le coup de fil sympa pour mettre en valeur vos initiatives.
Et ça, c'est un sujet qui va parler à beaucoup de parents et d'ados. Vous savez, le fameux stage de 3e qui peut vite devenir un calvaire quand on n'a pas les bons contacts, Laurent.
Ouais, pas de panique, hein. À Tours, des étudiants se mobilisent et donnent un coup de main à ces élèves dans leurs recherches. Bonsoir, Julia.
Bonsoir à tous.
Vous êtes étudiante à l'Institut d'administration des entreprises de Tours. Avec d'autres camarades, vous avez lancé le projet Nous Trois. Que faites-vous pour ces élèves de 3e ?
Alors ce projet, tout d'abord, l'objectif c'était d'aider les collégiens de 3 collèges différents parce que le stage de 3e, c'est une première expérience en entreprise qui est importante. Donc notre objectif, c'était vraiment d'accompagner ces élèves dans leurs recherches, avec notamment la mise en place d'une conférence et qui avait pour but tout d'abord de rencontrer ces collégiens, mais aussi de réaliser avec eux des ateliers CV et lettres de motivation pour les aider à faire leur candidature qui peut être compliquée quand on n'a pas encore d'expérience professionnelle. Et on a également réalisé avec eux un moment job dating pour qu'ils puissent s'entraîner à un potentiel entretien et échanger aussi avec eux plus individuellement.
Et à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait les aider, ces élèves de 3e ?
C'est une idée de notre responsable de projet, donc Madame Soubise, qu'on remercie tous, je pense, pour ce beau projet, qui a su mettre en lumière justement l'importance du stage de 3e. Donc à la base, c'est une idée de Madame Soubise.
Eh bien Madame Soubise, elle va vous mettre une bonne note, elle a été citée 2 fois à l'antenne. On la salue Madame Soubise. Et dites donc, quand vous mettez en relation les collégiens avec les chefs d'entreprise, quelle est la réaction des chefs d'entreprise ?
Alors, en fait, on a déjà un contact auparavant avec les chefs d'entreprise. Ils sont tous partants pour le projet et quand on les met en contact, du coup, ils savent à peu près déjà le profil des collégiens et ils sont ravis, ils sont contents. Donc, c'était le but de ce projet, donc c'est parfait.
Ça veut dire que ce sont des chefs d'entreprise que vous, en tant qu'étudiant, vous avez déjà rencontrés, avec lesquels vous avez déjà travaillé ?
Oui, certains. Justement, ce projet était parfait pour notre parcours expérience en entreprise à l'IAE. puisqu'on est tous en alternance. Donc on a déjà tous contacté nos entreprises pour savoir s'ils étaient OK ou pas pour participer à ce projet. Et puisqu'il nous manquait quelques stages pour quelques collégiens, on a décidé de contacter des entreprises qui faisaient pas partie de notre réseau à la base. Elles étaient tout aussi partantes pour participer à ce projet.
Julia, quel type de conseils pouvez-vous donner aux élèves de 3e qui galèrent à trouver leur stage en entreprise, si vous en aviez 2-3 à donner comme ça?
Alors, ce qui est super important, déjà pour le CV, c'est éviter les fautes d'orthographe, ouais. Se mettre en avant. Ensuite, pour le stage de 3e aussi, ce qui est important, c'est la tenue, enfin savoir se présenter, etc. Et montrer évidemment sa motivation. C'est les choses les plus importantes à mettre en avant pour une première insertion professionnelle.
Eh bien, merci Julien. Et si vous avez donc des questions à poser sur ce fameux stage de 3e, si vous avez besoin de conseils, rendez-vous sur le compte Instagram Projet Nous 3. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et on embrasse Madame Soubise.
On l'embrasse, oui.
Oui.
On embrasse Soubise. Merci Julia. Bonne soirée. Et si comme Julia, vous avez envie de nous raconter vos initiatives, vos projets, vos coups de cœur, vous n'hésitez pas, vous avez la parole tous les soirs juste avant 19h dans RTL Soir.
On est super connectés, vous avez la page Facebook ou le compte Twitter dont défait le monde, il n'y a rien de plus simple. Vous laissez des messages et puis Laurent scrute la page et vous rappellera, vous contactera pour qu'on parle de votre projet ou de votre initiative à l'antenne tous ensemble.
Exactement, on vous attend.
Ah oui, il y a le courrier, 56 avenue Charles de Gaulle, RTL Neuilly-sur-Seine.
Voilà, très bien, dans les Hauts-de-Seine, 92. Merci les amis dans Défait le Monde, on se retrouve demain, 18h40 pour de nouvelles aventures dans RTL Soir. Dans un